Comment rencontrer le bon partenaire? Comment s'entendre quand on ne parle pas le même langage? Et surtout, comment garder son autonomie quand on se trouve dans l'interdépendance? C'est à ces défis-là que sont confrontés aujourd'hui collectivités et tiers-lieux. Parce que les deux entités partagent au fond le même objectif, celui d'être utiles à leur territoire, elles doivent apprendre, bon gré mal gré, à œuvrer ensemble. Qui plus est, les collectivités ne sont pas les seuls partenaires des tiers-lieux. Il faut donc composer cette relation dans un contexte qui n'est pas exclusif, dans un contexte où plusieurs entités s'articulent, un peu comme dans le polyamour. Par des interviews croisées, qui mêlent la parole de porteurs de projets et de représentants de collectivités, notre mini-série de podcasts en 5 épisodes vous propose de découvrir des études de cas et de croiser les analyses de différents acteurs et actrices de terrain. Embarquez avec nous pour découvrir ces histoires humaines, collectives et politiques qui lient un lieu à son territoire. Je t'aime.
Moi non plus.
Je t'aime, moi non plus. Explorer les relations entre tiers-lieux et collectivités. Un podcast de la Compagnie des tiers-lieux, réalisé par Alaphonie. Épisode 2. Coup de foudre à Flin-les-Rache. Dans l'épisode précédent, nous avons vu qu'il fallait parfois du temps pour construire une relation de confiance entre une collectivité et des porteurs de projets de tiers-lieux. Aujourd'hui, on va explorer une toute autre histoire qui se passe pourtant tout près de la première, dans un village presque 10 fois plus grand. Bienvenue à Flin-les-Rache.
Flin-les-Rache, c'est une commune située entre Douai et Orchies, donc dans le triangle Lille-Douai-Valenciennes, qui comporte 5600 habitants, qui est plutôt une commune rurale assez étendue, qui est entre la ville et la campagne.
Alors lui, c'est Philippe Martin, adjoint municipal au développement durable et à la démocratie participative. Il a été élu en 2020. Originaire de la métropole lilloise, il habite la commune de Flin depuis plus de 10 ans. Sa mairie est directement à l'initiative d'un projet de tiers-lieu. Il nous raconte la petite histoire qui date d'avant son élection.
Alors à l'origine, on avait un café qui était dans le centre de la ville, un endroit assez stratégique entre la mairie, les écoles, le collège, enfin vraiment au centre de tous ces axes-là. Et ce café a été mis en vente. On a des entreprises qui se sont positionnées pour le racheter et a priori ça partait sur une entreprise de menuiserie et on trouvait ça très très mal placé pour faire de la livraison de fenêtres, de baies vitrées, de choses comme ça. Donc la mairie s'était positionnée dessus et avait pris connaissance de la notion de tiers-lieu et était assez intéressée pour recréer un lieu de convivialité finalement en plein centre-ville.
Donc là, on est dans un cas inversé par rapport à notre premier épisode, mais qui arrive assez régulièrement ces dernières années. C'est une mairie qui a un lieu et qui cherche un collectif citoyen pour porter le projet. Facile, a priori. D'ailleurs, une personne n'a pas tardé à se présenter spontanément avec l'envie de créer un espace coworking et salon thé. Mais...
il n'y avait pas eu d'appel à projet. Et c'est ce qui, moi, en tant qu'élu, quand je suis arrivé, me gênait aussi un petit peu, peut-être. C'est de se dire comment on ouvre la porte à tout le monde pour que tout le monde puisse y postuler finalement et apporter sa petite graine plutôt que de se dire ça pouvait sentir un peu l'arrangement entre amis, de se dire voilà, la porteur de projet, on prend celle-là et puis on réfléchit pas plus.
La mairie de Flin a donc passé une petite annonce dans le journal municipal. Et là, le destin opère, ou du moins la synchronicité, car...
par hasard, un ami qui habite à Flin-les-Rache a regardé son journal municipal et a vu que la mairie de Flin-les-Rache avait l'envie de racheter l'ancienne brasserie, ancien café des sports de Flin, et d'en faire un tiers-lieu. Donc on s'est dit, mais c'est intéressant. Donc on a été rencontrer la mairie de Flin.
Quand l'équipe de chez nous autres a vu cet appel à projet un peu informel, hein, c'était vraiment un appel à candidature plutôt, ils ont contacté assez rapidement dès qu'ils ont vu ça, parce que ça correspondait pile poil dans leur planning. Et ensuite, on s'est rencontrés, et puis le feeling est bien passé tout de suite.
Une rencontre suite à une petite annonce, à l'ancienne quoi. C'est romantique, non? Alors qui ce sont ces heureux élus de chez nous autres? J'ai rencontré un des membres du trio qui compose cette équipe, Franck Biget. Il est éducateur spécialisé de formation, devenu formateur et cadre dans l'action sociale. Mais comme il nous l'explique, il est en pleine reconversion.
En fait, je suis un gros déçu de... Je suis devenu déçu du médico-social et de l'action sociale. J'en ai un peu marre des institutions. Je trouve que le secteur ne bouge pas, qu'il reste figé, qu'il n'y a plus beaucoup d'initiatives personnelles et locales qui sont mises en place, que les grosses associations bouffent tout. Mais derrière, je trouve que tout ce qui est développement local, on tourne en rond. Et donc l'idée, c'était d'arrêter. J'ai fait une rupture conventionnelle avec l'idée de créer mon propre projet, de faire ce que j'avais envie de faire, mais en ayant toujours une approche sociale.
Mais Franck n'est pas tout seul hein, dans ce projet. Il nous présente ses acolytes, Lola et Nicolas.
Lola, qui est une amie d'enfance, elle est aussi dans le social, mais elle a du mal aussi à s'y retrouver sur le terrain, où elle sent qu'il y a une perte de valeur, un sentiment d'inutilité, ou que les projets qui sont mis en place ne sont peut-être pas bien construits et donc pas efficients pour le public avec lequel on travaille. À deux, on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire. Par hasard, Lola, qui connaît Nicolas, qui est aussi un éducateur technique, cuisinier de formation, c'est un fils de restaurateur, qui lui aussi avait une envie de quitter le et de créer son truc. Il ne savait pas trop quoi. Est-ce que c'était un restaurant d'inclusion? Est-ce que c'était quelque chose pour valoriser la question du handicap? Il est très sensible à la question du handicap. Il avait l'envie aussi de pouvoir créer un truc. Voilà, c'est comme ça qu'est venu le projet, quoi. Donc, resto-bar citoyen.
Le projet de chez nous autres a donc été pensé à trois. Il existait bien avant l'appel de la mairie de Flin. Franck nous présente un peu plus en détail leur vision.
Une cuisine locale, très simple. L'idée, c'est de favoriser tout ce qui est produit, culture locale. Mais derrière, avec une dimension de faire de ce lieu un lieu de rencontre, un lieu de mixité sociale, un lieu d'échange. En fait, c'était aussi dans mon désir, notre désir, de faire du développement local de territoire, de participer à quelque chose qui permette, en milieu rural, parce qu'on avait une volonté de rester dans le milieu rural. Et donc, l'idée, c'était de créer quelque chose et de faire que les habitants puissent participer. Tu viens, c'est convivial, tu es chez toi. Donc, on vient chez nous autres.
Ok, super. Mais revenons à l'histoire de la rencontre, le fameux coup de foudre que je vous ai promis dans le titre de cet épisode. Et comment cela s'est-il passé, Monsieur Philippe Martin, vous nous racontez ?
Franck, Lola et Nicolas, donc les porteurs de projet de chez nous autres, sont venus nous proposer le projet qui était beaucoup plus abouti, avec un plan financier, avec beaucoup plus de contacts, un réseau déjà créé. Et du coup, voilà, ils nous ont pas mal fait rêver. Et on a retenu le projet qui, pour nous, apportait un peu tout ce qu'on attendait à cet endroit-là de la commune.
Alors oui, bon, c'est un coup de foudre, hein, mais bon, il y a un peu une partie de choix rationnel quand même. Hein. L'un n'empêche pas l'autre, après tout. En vérité, l'équipe de chez nous autres s'était préparée bien en amont et elle était mûre à point pour cette rencontre. Parce que ça fait longtemps que l'aventure a commencé, n'est-ce pas, Franck ?
C'était il y a 3 ans. Donc pendant une année, en fait, on a cherché où ? Donc au départ, c'était la Pévèle, parce qu'on est de la Pévèle. Donc on a fait un peu toutes les municipalités pour savoir s'il y avait des salles, des lieux, des locations.
Tiens, parenthèse, ça me rappelle le récit d'Aline dans l'épisode 1 de notre mini-série.
On s'est renseigné après sur des achats. Est-ce qu'on pouvait louer un hangar ou acheter un hangar qu'on retapait par nous-mêmes ? On a eu quelques pistes. Et puis, on s'est rendu compte qu'on n'était pas assez bien formé sur toute la question budgétaire. Notre entrée d'argent, notre budget, on nous demandait beaucoup de votre seuil de rentabilité, enfin des choses qui sont assez loin de nous, par notre formation. Donc j'ai fait une formation à la BGE pour construire un business plan. Et donc on est revenu ensuite sur le terrain à rechercher avec justement des arguments et de pouvoir effectivement savoir c'est quoi un seuil de rentabilité, c'est quoi une marge, comment on calcule une marge. On a fait une petite étude de territoire, un diagnostic de territoire pour voir si ça pouvait tenir la route. Notre porte d'entrée financière, on l'a pensé par la restauration parce qu'il y a des manques sur le territoire en termes de restauration le midi. On avait des armes plus en main pour pouvoir négocier, discuter avec les mairies.
Oui, ce sont des armes de séduction comme d'autres, hein, finalement. N'empêche qu'à partir de là, une seule rencontre a suffi.
Et puis, la mairie de Flin, ils étaient bien contents, parce qu'enfin, ils ont vu derrière qu'on avait construit quelque chose, qu'on avait budgétisé, qu'on s'était vraiment projeté et qu'on avait des choses concrètes. Donc ça a matché, puis on s'est serré la main, puis on a dit, allez, c'est parti.
Ok, bah là, vous vous dites peut-être que ça ressemble plus à un mariage de raison qu'à un coup de foudre, plus pragmatique qu'au romantique. Mais ça, c'est parce que vous ne connaissez pas assez Philippe Martin. Justement, parlons-en. Monsieur Martin, qu'est-ce que la commune de Flunes-les-Raches attend de ce tiers-lieu ?
J'espère que ça sera un lieu de convivialité où les gens seront heureux d'être là, où les gens auront envie de venir rencontrer les copains à cet endroit-là, et aussi où on va avoir la place pour avoir des vrais débats sur des sujets de fond, sur des projets pour la commune. Pour moi, je place ce type de lieu dans les incubateurs d'idées, finalement. C'est un endroit où, OK, ça ne sera pas prévu comme ça, mais on va venir se rencontrer, on va parler d'actualité, de sujets, des petits potins du village, et puis on va lancer des idées comme ça. Et j'espère qu'il y a des petits projets qui se montreront là, que les assos vont venir aussi passer du temps peut-être dans ce tiers-lieu. Mes attentes en tant qu'élu étaient vraiment là. Je pense que les attentes de l'équipe municipale sont vraiment là aussi. C'est un endroit où on construit le futur, où on refait le monde ensemble et on ne fait pas juste que dire des choses, mais on prépare le futur.
Waouh, vous voyez, on est vraiment dans la vision noble et citoyenne du tiers-lieu. Parce qu'il est comme ça, Philippe Martin.
Moi, je me suis engagé pour ça aussi dans le conseil municipal. Il ne faut pas attendre à ce que ce soit les autres qui fassent les choses. Et si on a envie que le monde nous plaise, il faut en être acteur. Donc je pense que ce lieu peut amener ça, en fait, dans un cadre agréable et facile d'accès. Et voilà.
Effectivement, Franck et l'équipe de chez nous autres ont vite compris qu'ils étaient sur la même longueur d'onde.
La Fline, alors c'est l'ancienne municipalité communiste, je pense que ça a son importance. Alors il ne s'agit pas d'avoir une étiquette, mais c'est tout simplement d'être soutenu sur ce genre de projet. Je pense que ça peut faire peur à certaines mairies, pas parce que peut-être qu'ils vont y voir un contre-pouvoir de par l'éducation populaire, mais dans l'autre cas, c'est pas ce qui se joue dans cette relation, quoi. Pour une mairie, c'est tout bénef d'accompagner ce genre de projet, parce que c'est du développement local, c'est de la participation des habitants, c'est faire revivre des milieux ruraux ou qui sont peut-être en perte d'animation, de vie citoyenne. C'est ramener de la culture, parce qu'on a l'idée de faire des petits concerts très variés. Comme on veut faire vivre les producteurs locaux, il y a deux maraîchers bio qui sont sur Flines, on va se fournir en maraîchage chez eux.
On a senti l'équipe chez nous autres très motivée par l'envie de faire se rassembler les gens. Et c'est exactement ce que moi je cherche dans ce genre de lieu, c'est d'être ensemble et de participer à la vie communale en tant que citoyen. Et on a sélectionné nos porteurs de projet parce qu'ils avaient envie aussi de faire se rencontrer les gens et de leur ouvrir aussi un peu les chakras sur le développement durable.
Vous voyez, il y a quand même comme un coup de foudre, non ? Bon, ensuite il y a un deal. Une sorte de contrat de mariage qui a été passé rapidement entre les deux entités.
Donc on a négocié un loyer avec démarrage où au départ, dans la clause, pendant 6 mois, on ne paye pas de loyer.
Nous, le deal, c'est de se dire on a envie que le projet réussisse, donc on va leur faciliter le démarrage.
Les 6 mois d'après, on paierait un loyer très faible.
Pour qu'eux puissent monter en puissance tranquillement, sans être pris à la gorge par les frais fixes de location de bâtiment.
Et ensuite, ils grimperaient progressivement en fonction du chiffre d'affaires.
Mais... pour pouvoir tranquillement atteindre leur objectif qui nous permettra d'augmenter un peu le loyer et de revenir à un loyer raisonnable pour ce type de lieu.
Mais ils ne pourraient pas dépasser 2 500 euros.
Et à eux de pouvoir survivre et une fois qu'ils sont lancés, voilà, une fois qu'ils ont beaucoup de rentrées d'argent, que ça puisse fonctionner aussi pour eux.
Donc la mairie fait les travaux et nous on finance tout ce qui n'est pas fixe, c'est-à-dire l'intérieur, les peintures, les tables, les chaises, voilà, tout ce qui fait que si un jour on doit déménager, on peut tout embarquer. Et la mairie a fait les gros travaux, gros financement sur les travaux.
Plus les travaux, exactement. Faut savoir que c'est un bâtiment qui coûtait pas extrêmement cher à l'achat. On était autour des 250 000 euros, je pense, à l'achat. Nous, on avait estimé des travaux, alors ça va peut-être faire mal aux oreilles de certaines personnes, mais pour rénover le bâtiment, l'architecte nous avait estimé ça à 400 000 euros.
Ah, quand on aime, on ne compte pas, c'est bien ce qu'on dit. Bon, mais il m'a l'air correct ce deal, grosso modo. C'est vraiment une situation pas mal là, tout beau, tout rose.
Alors ça date maintenant, c'est juillet 2021, donc là on est en 2023.
2024 même, entre-temps.
Donc ça fait 2 ans.
À peu près.
2 ans que c'est démarré, avec, on va dire, 1 an et demi de retard.
Minimum.
Parce que c'est là où on s'est rendu compte de la difficulté de travailler avec une collectivité style mairie. C'est qu'on n'avait pas capté ça. C'est du marché public. C'est des appels d'offres, c'est des votes conseil municipal, c'est beaucoup de choses qui font que ça prend énormément de temps.
Mais si ce n'était que ça ?
Non, pas de chance du tout. On est vraiment tombé au pire moment, je pense, des 30 dernières années.
Moment Covid, après Covid, situation géopolitique mondiale assez compliquée, l'Ukraine derrière qui arrive, l'explosion des matériaux, de matières premières.
Enfin, les coûts ont quasiment ont plus que doublé, on va dire, entre l'estimation de l'architecte et les devis qu'on a reçus quand on a lancé l'appel d'offres.
Donc ils se sont rendus compte que les appels d'offres, quand ils ont ouvert les enveloppes, étaient 3 fois au-dessus du budget qu'ils avaient espéré.
Quand tout devient cher, il faut être malin, forcément. Et on a parlé avec nos services techniques.
Donc, une grosse partie des travaux, et notamment le gros œuvre, sont faits par les services techniques de la mairie de Flins.
Donc, nous, on a eu confiance, on s'est lancé là-dedans. Et finalement, c'est un chantier qui est très, très difficile, qui est énorme, et pour eux, qui est compliqué aussi.
Avec tout ce que ça incombe comme contrainte, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas que ça à faire.
Alors, on a des soucis d'approvisionnement, de logistique, les coûts, et des soucis aussi de compétences par moment. Donc.
C'est pas non plus des spécialistes du gros œuvre.
Donc, la vie n'est pas rose tous les jours, et on a pris énormément de retard aussi par rapport à ça, mais sans cette solution, je pense que ça devenait très compliqué de le faire. Et si on y arrivait, on allait vraiment se faire taper dessus sur les financements investis. Et c'est de l'argent public, c'est de l'impôt des citoyens, et on a tout intérêt à l'utiliser le mieux possible.
Donc ça fait que ça a pris énormément de temps. Là, on repousse de 6 mois en 6 mois en 6 mois en 6 mois.
Waouh, quelle galère! On pourrait se dire qu'il y a de quoi lâcher l'affaire. Mais encore une fois, ce serait mal connaître nos personnages.
Mais là, on commence à en voir la fin. Les gros œuvres sont finis, les petites entreprises peuvent venir, le carrelage va être posé, les cloisons sont mises. Donc voilà, on espère que ça avance bien et on espère effectivement pouvoir s'occuper de notre intérieur au mois de décembre, janvier, et puis ouvrir en février, mars, dans ces eaux-là.
Donc pas de bol, mais c'est pas grave, on va quand même l'emmener au bout ce projet, il en vaut la peine.
Pas mal de centaines de milliers d'euros qui sont investis. Je ne sais plus le budget, mais ça monte pas loin de 500 000 euros quand même, mine de rien.
Donc voilà, nous on s'est accrochés parce qu'on croit vraiment au projet, mais c'est un vrai investissement de la commune en argent parce qu'il y a du financement à mettre, et à côté de ça en temps parce que vu que les coûts augmentent, nous il faut qu'on aille chercher des subventions à fond et on essaye de rendre le projet viable malgré l'augmentation des coûts qui est phénoménale en ce moment.
Bon, ok, du coup, c'est pas non plus tout beau, tout rose. Mais justement, quel impact a eu ce contexte dans la relation entre la collectivité et les porteurs de projets ?
C'est beaucoup de questionnements, beaucoup d'inquiétudes. Les services techniques en ont marre. La DGS, elle en a marre. Tout le monde en a marre, quoi.
Des tensions auraient pu apparaître et entacher la relation, mais non, ce n'est pas ce qu'il s'est passé à Flins-les-Raches.
En fait, au fil du temps, ça devient un peu d'égal à égal parce que nous appellent, ils sont inquiets, autant que nous. Ils ont peur qu'on lâche. Ils ont eu peur qu'on lâche le projet parce qu'ils auraient été vraiment emmerdés. C'est le cas de le dire, parce que qui allait gérer ça ? Ils ont une pression des habitants. Ils ont une pression de l'opposition. Il y a pas mal de gens qui se posent des questions sur l'utilisation de l'argent public. Les services techniques qui travaillent un peu pour nous, mine de rien. Donc ça jase, ça, évidemment, quoi. Il y a des bruits de couloir, eux ont tout intérêt à faire alliance avec nous, de toute façon.
Ce constat, il est connu et partagé par Philippe Martin.
Donc on se fait pas mal attaquer sur le choix d'avoir investi dans ce café. Beaucoup de monde est dubitatif, les cafés qui étaient déjà installés sont très sceptiques du fait que la mairie s'investisse dans un nouveau café. Donc oui, tout le monde n'a pas la même conviction que moi de ce que ça pourrait apporter et on a encore beaucoup de gens à convaincre.
Ok, à Flins-les-Raches, il n'y a pas un tapis rouge général, mais il y a une transparence. Et Franck a pleinement conscience des attentes et de leurs responsabilités envers la ville.
Alors je ne sais pas s'ils vont nous juger, mais je pense qu'ils attendent quand même qu'on tout ce qu'on a apporté en termes de valeur et l'essence même du projet, de développer, de faire participer les habitants, que l'associatif ait sa place, que le Ripper Café ait lieu dans le lieu, bah c'est qu'on remplit ses exigences, en fait. Je crois qu'il serait très déçu que le projet devienne un simple restaurant. Voilà. Je pense qu'ils nous attendent là-dessus, de vérifier que tout l'engagement qu'ils ont mis, la croyance qu'ils ont en nous, soit respecté, en fait, et qu'on remplit les exigences qu'ils étaient en attente d'avoir pour des futurs locataires, l'investissement qu'ils ont mis, et que ça rentre vraiment dans ce qu'on a matché, pourquoi on a serré la main, quoi. Quand on leur a donné les statuts, on a signé un bail commercial avec des attentes. Nous, on est conscients, on est pratiquement sûrs de la réussite du projet. Eux, ils n'en seront pas encore sûrs. Donc voilà, je pense que c'est là-dessus où ils nous attendent, que ça tient la route et que ce qu'on a dit qu'on allait faire, qu'on va le faire.
Ok, donc est-ce que tout ça, ce ne serait pas juste une question de confiance, en fait ?
C'est primordial. Après, comment on fait pour se faire confiance ? Je pense qu'il faut... Alors, il faut avoir des attentes, avoir un peu d'ambition, mais... Clairement, moi, j'essaie d'enlever dans la tête des gens aussi l'attente de rentabilité sur ce type de lieu. Enfin, de rentabilité financière, je parle. Il y aura plein d'autres rentabilités que ça pourra apporter, mais c'est un investissement qu'on fait pour améliorer le cadre de vie de la commune. Et on ne le fait pas juste pour apporter un café, mais on le fait aussi pour construire des projets dans le futur. Donc, il faut être convaincu que de la vision qu'on a du type de lieu. Il faut confronter notre vision à celle des porteurs de projets. Et après, la confiance, elle se fait, ça dépend des humains, ça, en fait. Moi, j'ai tendance à faire confiance et j'ai eu totalement confiance en l'équipe de chez nous autres. J'espère que je me suis pas gouré. Eux nous ont fait confiance aussi parce qu'ils ont pas abandonné le projet et j'espère qu'ils se sont pas gourés non plus. On s'est fait confiance de base et c'est ce qu'il faut. Moi, j'avais vécu il y a quelques années, on était allé en Irlande et j'étais épaté par l'ambiance des pubs irlandais où toute la famille était là, tout le monde était heureux et puis ça parlait dans tous les sens et les enfants jouaient au mieux tout ça. Il y a les ingrédients pour ça, mais il faut que ça prenne.
Ah, vous voyez, il est là, le coup de foudre pour moi. Il est dans cette confiance a priori, dans ce focus sur la vision relative au fond du projet. C'est peut-être ça que je trouve si romantique dans cette histoire. Avoir un idéal et y croire, malgré les épreuves que la vie nous envoie. Il est temps de conclure cet épisode. Revenons à notre si subtile métaphore amoureuse. Ce que l'on comprend ici, c'est que ce projet, aussi bien pour la collectivité que pour l'équipe qui le porte, c'est certes une question d'engagement, mais plus que ça, c'est une véritable prise de risque. Et c'est comme ça aussi un coup de foudre quand on décide d'écouter son cœur et de s'engager pleinement. C'est un pari sur un ressenti, un pari sur l'avenir, même s'il y a toujours aussi une part d'éléments rationnels. C'est le désir de construire une union envers et contre tout, une alliance solide contre les sceptiques et les rabat-joie qui disent qu'on ne devrait pas. C'est aussi avoir pleinement conscience de l'interdépendance dans laquelle on s'inscrit, mais savoir aussi qu'elle peut se construire dans le respect, la transparence et la lucidité. Vous voyez, c'est quand même pas si compliqué.
Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde.
Attention, nuance. Il faut quand même préciser que l'on parle ici d'un lieu en projet qui n'a pas encore ouvert au moment des interviews. Aux dernières nouvelles, d'ailleurs, les travaux sont vraiment presque finis cette fois. Et l'équipe travaille sur la programmation. L'ouverture est prévue pour le mois d'avril. Et donc sur la durée, me direz-vous. Et vous aurez raison. Parfois, comme ici, tout commence dans une belle lancée. Mais ce n'est pas pour autant que ça ne finit pas mal. Que se passera-t-il à la prochaine période électorale ? Que se passera-t-il si la mairie change de bord ? Difficile de le savoir. En tout cas, on sait bien que parfois, un partenaire qui semble idéal peut aussi nous tourner le dos subitement. Il y en a même qui disent que les histoires d'amour finissent mal, en général. Mais chut, ça, nous en parlerons dans l'épisode 3 à travers une autre étude de cas. Merci de tout cœur à Philippe Martin et à Franck Biget qui nous ont livré leur expérience. Nous leur souhaitons une belle ouverture en avril et longue vie au tiers-lieu chez nous autres. C'était Je t'aime moi non plus, explorer la relation entre tiers-lieux et collectivité, un podcast de la Compagnie des tiers-lieux, réalisé par Alafouni. Interview, texte, voix off et montage par Magali Nérac, pour vous servir. Création musicale originale et mixage par Étienne Cernoux, en personne.